Et nous débutons avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une dictée par jour, au CP davantage d'évaluation, au en CP, au CE1, en 6e et en seconde, l'apprentissage de la Marseillaise à partir du CE2, et pas question de tricher bien sûr en regardant sur son téléphone portable, le téléphone interdit à l'école et au collège en ce jour de rentrée scolaire. Quelles sont les nouveautés pour les élèves? Quel point de crispation côté enseignant? Nous ferons le point dans un instant.
La rentrée, toujours compliquée pour l'exécutif, toujours pas de ministre de la transition écologique, Daniel Cohn-Bendit a refusé le poste hier.
À la une encore, la crise migratoire au Venezuela au cœur d'une réunion aujourd'hui en Équateur. La crainte, encore et toujours, d'une catastrophe humanitaire à Idlib, en Syrie. Et puis un musée dévoré par les flammes, c'est l'image de la nuit, le musée national de Rio, au Brésil, ravagé donc par un incendie. Pas de victimes, selon les premières informations, mais 20 millions d'œuvres d'art sont menacées.
Et puis vous l'avez peut-être entendu, il y a un projet de l'Union européenne pour supprimer le changement d'heure. Mais au fait, quels effets sur notre santé pour ce changement d'heure? On posera la question à Sylvie Royan-Parola, psychiatre spécialiste du sommeil. Allez, il faut se réveiller.
Quelques notes de musique pour accueillir les 12 millions d'élèves de l'école au lycée à partir d'aujourd'hui. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a voulu placer cette rentrée scolaire sous le signe du bonheur, de la joie et de la créativité en renouvelant cette année l'opération Rentrée en musique. Et pour éviter les couacs, le ministre explique dans un entretien aux Parisiens à lire ce matin les grands changements qui attendent élèves, parents et enseignants cette année, avec par exemple les évaluations nationales lancées en CP et en 6e l'an dernier qui seront étendues désormais au CE1 et à la seconde, des évaluations ensuite transmises à leurs parents. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Catherine Dutu.
L'évaluation des élèves, l'une des sources de défiance des enseignants envers leur ministre.
Hakim. Et oui, ces évaluations, ce sont elles qui cristallisent le mécontentement des enseignants, mais aussi des parents. Alors, pour bien comprendre, les évaluations, elles avaient lieu en CP l'année dernière, et cette année, eh bien, elles auront lieu aussi en seconde, en CE1 et en sixième. Une mesure anxiogène pour les élèves, qui aura aussi pour but d'évaluer les enseignants et les établissements, comme le rappelle ce matin Jean-Michel Blanquer dans les colonnes du Parisien. Inacceptable pour Stéphane Crochet, secrétaire général du SEUNSA.
On est parti d'évaluations nationales qui étaient là pour être des outils pédagogiques et on voit qu'elles se transforment en outils d'évaluation des politiques publiques. Est-ce que ça veut dire que c'est carrément une évaluation des écoles, des collèges, des lycées? On a entendu parler de rémunération au mérite. Le risque au fond de tout ça, c'est de se mettre à préparer nos élèves à répondre à des exercices qui serviront à nous noter, nous professionnellement les enseignants. Et si jamais on se met à faire ça, on perd complètement le sens de ce qu'on a à faire à l'école.
Autre interrogation, la réforme du bac qui va concerner les élèves qui arrivent en seconde cette année. Les programmes ne sont toujours pas fixés, d'où l'inquiétude de Claire Crépère, secrétaire générale adjointe du SEUNSA.
Pour l'instant, on ne peut rien dire sur comment va s'organiser la classe de première dès la rentrée 2019. Les lycées sont dans l'incapacité de dire quelles seront les spécialités qu'ils vont proposer et comment les élèves vont pouvoir les choisir.
Quant au dédoublement des classes en CE1, en REP+, cette année, si les enseignants y sont favorables en termes pédagogiques, ils dénoncent là aussi le manque de moyens, car elle se fera au détriment notamment des zones rurales qui verront des classes se fermer. Enfin, cette rentrée sera aussi marquée par l'interdiction du téléphone portable du CP à la 3e, sauf à des fins pédagogiques. Mais là aussi, enseignants et chefs d'établissement restent dubitatifs quant à l'application de cette mesure.
Hakim Kasmi, on vous retrouve à 7h24 pour le reportage de la rédaction, toujours en direct, consacré ce matin aux fermetures de classes en zone rurale. Vous vous êtes rendu dans la Sarthe, tout près de la Mayenne et de Laval, où le président Emmanuel Macron se rend aujourd'hui dans le collège Jules Renard pour faire sa rentrée scolaire. Lui ne sera pas sur la photo de classe du gouvernement en cette rentrée. Daniel Cohn-Bendit a indiqué hier soir sur LCI qu'il ne remplacerait pas Nicolas Hulot à la tête du ministère de la Transition écologique. Une décision prise d'un commun accord avec Emmanuel Macron, a expliqué l'ancien député européen.
Ça a été une discussion, on a pris la décision ensemble. On a mis d'un côté pourquoi, et donc ma personnalité, ma capacité d'influencer les choses, et d'un autre côté, et ça a été, je résume plus d'une heure de discussion, et il me dit, si tu es ministre, et il dit exactement ce que je ressens, tu perds ta personnalité, tu n'as plus cette liberté. Est-ce que tu veux cela? Et c'est là qu'on s'est mis d'accord ensemble, que effectivement, c'est une fausse bonne idée. C'est une idée séduisante au début, qui marquerait l'importance de l'écologie. Ce serait un marqueur même de gauche dans ce gouvernement.
Mais sans état d'âme, vous n'irez pas.
Et sans état d'âme, parce que dans cette direction, on est d'accord que c'est pas mon truc.
Daniel Cohn-Bendit hier soir sur LCI. Outre le casse-tête du remaniement, week-end studieux pour l'exécutif qui doit rapidement décider s'il donne ou non son feu vert au prélèvement à la source de l'impôt à partir du 1er janvier 2019. Réunion prévue demain à l'Élysée avec le Premier ministre Édouard Philippe et Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics.
7h05 sur France Culture, c'est la suite du journal de Catherine Dutu. C'est tout un pan de l'histoire brésilienne, sud-américaine et universelle qui part en fumée.
Et ce sont des images impressionnantes, désolantes qui nous parviennent cette nuit du musée national de Rio de Janeiro, ravagé par un incendie. C'est un jour tragique pour le Brésil, déplore ce matin le président Michel Temer. 200 ans de travail, de recherche et de connaissances ont été perdus, a-t-il encore déclaré, le musée national de Rio, qui abrite pas moins de 20 millions d'œuvres d'art. Le Brésil, la Colombie, l'Argentine, la Bolivie notamment, vont participer aujourd'hui à une réunion en Équateur sur la crise migratoire vénézuélienne. Bien qu'invité, Caracas n'a pas confirmé sa participation aux discussions qui portent sur le 1,5 million de réfugiés qui ont fui le Venezuela depuis 2015. Le Venezuela, son hyperinflation, ses pénuries de nourriture et de médicaments, 1 million d'exilés rien qu'en Colombie. Certains sans aucune aide de la part de ce pays d'accueil, témoignages et reportages à suivre dans le journal de 7h30. Tout comme les Nations Unies, ils s'inquiètent des risques d'une catastrophe humanitaire en Syrie. Le pape François a appelé hier la communauté internationale à tout faire pour assurer le respect du droit international humanitaire et pour protéger la vie des civils dans la région d'Idlib, cette province insurgée du nord-ouest de la Syrie, menacée d'un assaut du régime de Bachar al-Assad soutenu par la Russie. La correspondance à Beyrouth de Laure Stéphan.
Dans la province d'Idlib se profile ce qui pourrait être l'ultime grande bataille du conflit syrien. Une province densément peuplée, rappelle Bassam Al-Ahmad, directeur exécutif de Syrians for Truth and Justice, une ONG des droits de l'homme basée en Turquie.
Les civils sont installés partout dans la province d'Idlib, à part évidemment sur les zones toutes proches des lignes de front. Mais on parle de plus de 3 millions de civils dans cette région, y compris des déplacés, des Syriens venus d'autres zones.
À plusieurs reprises, l'aviation syrienne a lancé des tracts sur la province d'Idlib en appelant les civils à rejoindre le giron de l'État, Bassam Al-Ahmad.
Bien sûr, le régime essaie d'exercer des pressions sur les gens pour obtenir ce genre d'accord. La situation d'Idlib est très compliquée. Les gens sont pris entre deux feux, ils n'aiment pas le régime, ils n'aiment pas les djihadistes. Les gens ont peur. Les forces de sécurité ont procédé à de nombreuses arrestations après les réconciliations dans des zones reprises.
Les djihadistes ont mis en garde les autres factions contre toute négociation avec le régime. Pour de nombreux civils déplacés au terme de précédents accords de reddition, regagner la zone gouvernementale reste un choix impossible.
Laure Stéphan à Beyrouth pour France Culture. Les voyages du désespoir, c'est le titre d'un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui déplore la mort confirmée ou la disparition en Méditerranée de 1600 personnes depuis le début de l'année. C'est une personne sur 18 qui a tenté de rejoindre l'Europe contre une sur 42 l'an passé à la même période. Avec pourtant moins de migrants sur les embarcations, les exilés ont deux fois plus de risques de mourir, notamment à cause des opérations de sauvetage qui sont plus rares et plus compliquées en Méditerranée. L'ONU demande la libération des deux reporters de Reuters qui étaient en détention préventive depuis décembre dernier. Ils ont été condamnés en Birmanie à 7 ans de prison pour atteinte au secret d'État. Leur crime, avoir enquêté sur un massacre de musulmans rohingyas par l'armée. Retour en France avec un nouveau procès de ce que l'on appelle la fraude à la taxe carbone. Il s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. 16 prévenus pour répondre d'une escroquerie évaluée à 70 millions d'euros au détriment du fisc. Explication de Florence Turme.
Trois frères, dont un, Richard Twill, déjà condamné dans un autre volet de l'arnaque, l'affaire Crépuscule, est toujours en fuite. Ils sont soupçonnés d'avoir monté des sociétés fictives, notamment B-Concept, pour collecter les montants de TVA sur les droits à polluer. Une collecte tout à fait légale en soi, elle découle de la signature du protocole de Kyoto, entré en vigueur en 2004 et qui instaure un principe de quota. Les entreprises les moins polluantes peuvent revendre leurs quotas non utilisés à celles qui ont dépassé le plafond annuel. Les fraudeurs, eux, y voient très vite une incroyable incroyable aubaine car ces échanges sont assujettis à la TVA. Ils achètent les droits à polluer hors taxe dans un pays européen, les revendent en France à un prix incluant la TVA, puis investissent dans une nouvelle opération, d'où l'appellation de carrousel pour désigner l'escroquerie, la TVA en question n'étant jamais reversée à l'État français. Escroquerie que la Cour des comptes dénonce en 2012 comme la fraude fiscale la plus importante jamais enregistrée en France en un temps aussi bref, estimée au total à 1,6 milliard d'euros entre septembre 2008 et juin 2009, date à laquelle Paris supprime la TVA sur le marché carbone. Les enquêtes judiciaires ont déjà débouché sur 5 procès d'envergure. Au mois de mai dernier, la Marseillaise Christiane Melgrani, ancienne professeure de mathématiques, considérée comme l'une des têtes pensantes de l'histoire, a été condamnée à 9 ans de prison ferme, 3 millions d'euros d'amende, sachant par ailleurs qu'une grande partie des sommes détournées n'a jamais été récupérée.
Sauver le patrimoine en péril grâce au grattage ou au tirage. Voilà ce que propose la Française des Jeux à partir d'aujourd'hui. L'opération avait été imaginée en mai dernier par le président Macron et par l'animateur Stéphane Bern, à qui Emmanuel Macron avait confié une mission d'identification du patrimoine en péril et de recherche de solutions. Les explications de Catherine Pétillon.
L'ambition affichée, c'est de créer une mobilisation populaire autour du patrimoine et de faire participer les joueurs à son financement. Sur les 15 euros du prix de vente d'un ticket, 1,50 euros sera affecté au patrimoine. Célia Véraud, directrice générale de la Fondation du patrimoine, partenaire de l'opération.
Ce qui va revenir à la Fondation, c'est la part de l'État. Et ça ira directement au site. Et ça sera réparti donc d'une part entre 18 bâtiments qui vont voir leurs besoins de financement complètement couverts pour les tranches les plus urgentes.
Parmi ces 18 sites, citons la maison de Pierre Loti à Rochefort, Fort Cigogne à Fouesnant ou encore le théâtre des Bleus de Bar à Bar-le-Duc. 250 autres sites repérés recevront eux une aide en fonction des gains de l'opération. La Française des Jeux prévoit entre 15 et 20 millions d'euros. C'est peu au regard des 326 millions consacrés chaque année par l'État et à peu près autant par les collectivités locales. C'est surtout une petite pierre à l'édifice quand on sait que sur 45 000 monuments au patrimoine, 5% sont en état de péril et ont besoin de financement. Pour l'économiste de la culture Françoise Benamou, cette nouvelle source de financement est bonne à prendre, mais ne suffira pas.
C'est un choix intéressant, parce que c'est un ajout à un certain nombre d'efforts qui sont faits, qu'ils soient publics ou privés. Mais c'est vrai que ça ne résout qu'une micro-partie du problème. Pour vous donner un ordre d'idée, le château Ferney, où Emmanuel Macron a annoncé ce loto du patrimoine, a besoin de à peu près 9 millions d'euros pour être restauré. Ce loto du patrimoine, c'est une manière de parler du patrimoine, c'est pas une manière de régler la question du financement de la restauration du patrimoine.
L'opération sera suivie d'un tirage du Super Loto le 14 septembre, au moment des Journées du patrimoine.
Le temps de ce lundi 3 septembre, nuageux dans la moitié nord de l'Hexagone, plus ensoleillé au sud, avec des averses possibles sur les reliefs. Au meilleur de la journée, il fera entre 20 et 22 degrés près de la Manche, 23 à 30 degrés partout ailleurs, du nord au sud, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu.